De l'écriture à la bombe atomique, les grandes inventions et découvertes jalonnent l'histoire, changent la vie quotidienne des hommes, bousculent les croyances et font avancer les connaissances. À bord de l'Odysseus, nous allons voyager à travers le temps et l'histoire pour découvrir ou redécouvrir les inventions et découvertes qui ont façonné la société humaine et son environnement. Je suis Erwan, capitaine de bord de l'Odysseus. Installez-vous et laissez-vous porter à travers le temps, tandis que je vous propose un peu de musique, le temps, que vous preniez place. Toujours sur Radioactive 101.9 FM, à bord de l'Odysseus. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la découverte, l'invention, qui a sans doute sauvé le plus de vies humaines, et continué de le faire d'ailleurs. Un vaccin est construit à partir d'un agent pathogène, bactéries ou virus, inactivés ou de virulence atténuée, ou encore de fragments d'un agent qui, lorsqu'on les introduit dans l'organisme, introduisent une réponse immunitaire protectrice de longue durée spécifique contre ce pathogène. L'acte d'introduction du vaccin par injection ou par voie orale est la vaccination. Elle est d'abord un acte de protection individuelle, mais possède aussi une dimension de protection collective, en limitant la circulation de l'agent infectieux. Quoi qu'il en soit, de l'efficacité croissante des traitements des maladies infectieuses, la vaccination reste, face aux épidémies et pandémies, l'arme la plus sûre et la moins onéreuse. La raison commande de continuer à en accepter l'usage dans l'intérêt de l'humanité tout entière et de poursuivre les recherches, ce à quoi incite la progression du sida, le retour de la tuberculose et l'émergence de nouvelles maladies comme la Covid-19. Les hommes ont découvert l'existence des phénomènes d'immunité bien avant d'entrevoir la complexité de leurs mécanismes biologiques. Et très vite, certains ont compris quel profit ils pouvaient tirer de cette réaction naturelle de défense de l'organisme contre les agents infectieux. Dès le XIe siècle, en Chine, des médecins expérimentaient les premières ébauches d'une vaccination. Il s'agissait alors de protéger des personnes bien portantes des ravages causés par les épidémies de variole en leur inoculant des sécrétions de pustules prélevées chez des malades en convalescence. Le bénéfice escompté était immense pour l'individu vacciné, à condition toutefois qu'il échappe à la maladie, car bon nombre de candidats ne survivaient pas à cette tentative d'immunisation. C'est par les mêmes observations qu'Edward Jenner a pu élaborer en 1796 la première version du vaccin antivariolique. Après avoir étudié la chirurgie chez des Ludlow, près de Bristol, en 1765, et la médecine à Londres en 1770, Jenner devient l'élève du chirurgien et naturaliste G. Hunter. Celui-ci, comprenant son intérêt pour l'histoire naturelle, le charge en 1771 de classer les collections rapportées des mers du Sud par le capitaine Cook. Malgré l'amitié profonde qui le lie à Hunter, leur correspondance ne s'arrête qu'à la mort de celui-ci, Jenner préfère rester à Berkeley, son village natal, où, en 1773, il s'installe comme chirurgien-médecin. 2 ans plus tard, il constate d'une part que les valets de ferme chargés de soigner les animaux ont souvent sur les mains des pustules semblables à celles produites par les cowpox, la vaccine, sur les pies des vaches. D'autre part, que ces sujets ne sont jamais atteints en cas d'épidémie de variole. Fléau redouté depuis des temps immémoriaux, la variole, probablement originaire de Chine, mais endémique en Europe depuis les croisades, tuait encore beaucoup au XVIIIe siècle, où laissait des séquelles redoutables. La seule protection, bien qu'imparfaite, était la variolisation, inventée par les Chinois vers l'an 1000 et introduite aux Indes, puis au Moyen-Orient, où en 1718, Lady Montagu avait fait varioliser son fils, puis répandre en Europe le principe de cette prévention. En gros, ça correspond à du pus de varioleux introduit par scarification. Mais les résultats étaient inégaux. Les réactions étaient parfois même pires que le mal. Jenner, partisan de la variolisation, observe que les valets de ferme ne présentent donc jamais aucune réaction à cette épreuve. Il en conclut que le cowpox immunise contre la variole. Il fait part de ses réflexions à Hunter, qui lui répond « Ne pensez pas, expérimentez, soyez patient et précis. » Et patient, il l'aura été. Ces observations dureront 20 années. Et ce n'est que le 14 mai 1796 qu'il ose inoculer au jeune James Phillips le pus d'une pustule d'une femme atteinte de cowpox, expérience satisfaisante qu'il répète. Il constate que les vaccinés, protégés contre la variole, ne sont plus contagieux. En 1798, il publie à ses frais An Inquiry into the Cause and Effect of the Variole Vaccina. Il se fixe à Londres en 1800. Il vaccine gratuitement jusqu'à 300 personnes par jour, publie toujours à ses frais des articles pour mieux faire connaître sa découverte et la défendre contre quelques détracteurs. Réduit à la misère, mais devenu en quelques années célèbre dans le monde entier, il demande une subvention au Parlement de Londres qui la lui accorde. Il revient en 1802 à Berkeley, en devient le maire en 1804, reprend ses activités médicales et poursuivra jusqu'à sa mort ses observations de la nature. Déjà, en 1787, Hunter lui avait conseillé de reprendre les travaux partiels de Buffon sur la vie du coucou. De nombreuses et patientes observations à la longue vue ont permis à Jenner de présenter à la Royal Society un rapport sur les habitudes de cet oiseau de pondre ses œufs dans les nids des autres espèces, dont les jeunes seront chassés par les coucous nouvellement éclos. Il a également étudié, entre autres, la migration des oiseaux, des insectes, des hérissons, des chauves-souris, etc. Malgré tous les honneurs dont il est entouré, il refusera de quitter Berkeley. Jenner n'est pas seulement l'inventeur de la vaccine, il a décrit la syncope angineuse, les causes les plus ordinaires de l'angine de poitrine en 1783. Il a étudié l'ophtalmie, l'influence des conditions d'hygiène sur la santé. Il était aussi violoniste, flûtiste, peintre, poète, naturaliste. Il fut également le modèle du médecin de campagne compétent, attentif et généreux. Bien que Jenner ait été à la base du vaccin, il est un autre homme plus connu qui aurait élaboré beaucoup plus loin ce concept. Élève de l'école primaire, puis externe au collège d'Arbois, au Jura, Louis Pasteur est fils de Tanner. C'est un élève moyen, mais il dénote un penchant très vif pour le dessin. Le principal du collège d'Arbois l'incite à s'orienter vers l'école normale supérieure. En octobre 1838, Louis Pasteur et son camarade Jules Vercel partent pour Paris afin de suivre les cours du lycée Saint-Louis. Très rapidement, Pasteur, qui ne supporte pas la séparation du milieu familial, retourne à Arbois, puis part pour le collège de Besançon, plus proche de ses parents que la capitale. En 1840, Louis Pasteur est bachelier de lettres. Il continue de peindre et de graver, et il se lie avec Charles Chapuis en 1842. Il est bachelier en mathématiques, admissible à l'école normale supérieure, en étant 14e sur 22. Il décide de se représenter pour obtenir un meilleur rang et part pour Paris. Il est reçu à l'école normale 4e en 1843. Normalien, Louis Pasteur suit les cours de Jean-Baptiste Dumas et étudie le problème de la polarisation de la lumière à propos des acides tartriques et paratartriques. En 1846, il est reçu à l'agrégation des sciences physiques. Sur l'insistance de son maître Antoine Jérôme Ballard, il n'est pas nommé en province et reste à Paris pour préparer sa thèse de doctorat. Le 23 août 1847, il soutient une thèse de physique sur l'étude des phénomènes relatifs à la polarisation rotatoire des liquides. Le 20 mars 1848, il présente à l'Académie des sciences son mémoire recherche sur le dimorphisme, concernant l'aptitude de certains corps à cristalliser de manière dissemblable. Après la révolution de 1848, il étudie de nouveau le problème des tartrates et paratartrates. Et il démontre que l'acide paratartrique se compose d'isomères acide tartrique droit et d'acide paratartrique gauche. Ces deux acides ont des pouvoirs rotatoires égaux et contraires qui se neutralisent lorsqu'ils sont mélangés en solution aqueuse. Jean-Baptiste Biot, spécialiste de la polarisation rotatoire, après avoir vérifié ce travail de Pasteur, publie un rapport sur les recherches sur les relations qui peuvent exister entre la forme cristalline, la composition chimique et le sens du pouvoir rotatoire.
Thank you.
Et vous êtes toujours sur Radioactive 101.9 FM, à bord de l'Odysseus. Louis Pasteur est nommé professeur de physique au lycée de Dijon. En janvier 1849, il devient suppléant de chimie à la faculté de Strasbourg. Il épouse la fille du recteur Laurent Marie et continue ses travaux de cristallographie. Sa réputation s'étend parmi les physiciens et les chimistes français et étrangers. En 1852, il va à Leipzig, puis en Autriche et à Prague pour étudier les tartrates. En juin 1853, il réussit la transformation de l'acide tartrique en acide racémique. Ses travaux sont consacrés en janvier 1853 par l'Académie des sciences. Le jeune savant souligne l'importance de la dissymétrie moléculaire qui peut intervenir dans les phénomènes physiologiques comme celui de la fermentation. En septembre 1854, Louis Pasteur est nommé professeur et doyen de la nouvelle faculté des sciences de Lille. Des accidents industriels dans la fabrication d'alcool de betterave sont à l'origine de ses travaux sur la fermentation, et en particulier sur la fermentation alcoolique. Par la suite, il passera toujours avec succès des problèmes de betteraviers du Nord à ceux des vinaigriers d'Orléans ou ceux des viticultures du Jura. Tandis que les travaux antérieurs des chimistes s'accordaient à nier le rôle de la vie dans le mécanisme de la fermentation, Louis Pasteur, isolant la levure lactique, reconnaît là un phénomène corrélatif à la vie. En août 1857, il fait une communication sur la fermentation lactique à la Société des sciences de Lille. Il revient alors à l'École normale supérieure pour y être administrateur et directeur des études scientifiques. C'est dans un laboratoire misérable qu'il élabore son mémoire sur la fermentation alcoolique en décembre 1857, où il conclut que le dédoublement du sucre en alcool et en acide carbonique est un acte corrélatif d'un phénomène vital. En janvier 1860, quelques mois après la mort de sa fille aînée, il obtient le prix de physiologie expérimentale pour ses travaux sur la fermentation. Louis Pasteur veut alors s'attaquer au phénomène des générations spontanées. Il tient en effet à contrôler les expérimentations de Félix Archimède, le Pouchet, qui démontrait la possibilité de faire naître des animalcules dans des récipients privés d'air. Il commence par l'étude microscopique de l'air. Grâce à des filtres de coton, il isole des germes qui troublent une suspension stérile. Puis il démontre en ouvrant ses ballons à Paris, en province, en montagne, sur la mer de glace, que les poussières en suspension dans l'air sont d'origine exclusive de la vie dans les infusions. Malgré ses détracteurs, il persévère, affirmant en 1861 que la fermentation butyrique est liée à des infusoires vivant d'ailleurs sans air, les anaérobies. En décembre 1862, il est nommé membre de l'Académie des sciences. Jean-Baptiste Biot, son maître et ami, est mort quelques mois plus tôt. Pasteur va reprendre ses travaux sur la fermentation, mais déjà il affirme que son but est d'arriver à la connaissance des maladies putrides et contagieuses. Il vient alors de mettre au point la pasteurisation. En 1864, il envisage le problème du développement des ferments, cause des maladies des vins, et découvre qu'une élévation brève de leur température, sans les altérer, les protège. Jean-Baptiste Dumas lui demande d'étudier l'épidémie des péprides, les taches de verre à soie malade ressemblant au poivre, qui ruine la sériculture, alors en plein renouveau. Pasteur est envoyé à Alès en juin 1865. Malgré la mort brutale de son père, il étudie cette mystérieuse maladie. Il démontre qu'il est nécessaire, pour avoir des vers sains, de ne retenir que des graines provenant des papillons sains. Il met en évidence la contagiosité de la pébrine et pose ses principes de la sélection des œufs provenant de papillons sains. En 1867, malgré les difficultés internes à l'école normale, Pasteur, grâce à des crédits spéciaux, améliore son laboratoire. En 1877, Pasteur étudie le charbon. Il démontre que la bactéride dite de Davin est vivante, qu'elle peut se reproduire en dehors de l'organisme dans des milieux appropriés et prendre une forme sporulée. Il sépare nettement le germe du charbon des germes de la putréfaction et clarifie certaines données contradictoires liées à la confusion entre les germes, pour lesquelles en 1878, Charles Sédillot crée le terme de microbe. Il montre le rôle du milieu dans le développement de la maladie. le 30 avril 1978, il fait cette communication sur la théorie des germes et leur rôle en pathologie. Il démontre les mécanismes de l'épidémiologie du charbon. À la même époque, il étudie le pus des furoncles et soupçonne l'origine bactérienne de la fièvre puérpérale. S'intéressant au choléra des poules, il constate qu'une culture vieillie n'est plus virulente. Inoculée, celle-ci ne transmet pas la maladie. Et mieux, la poule ainsi inoculée n'est plus sensible à une culture fraîche. Pasteur approche du concept de vaccination mis au point en 1796 par le médecin anglais Edward Jenner, par bactéries atténuées. Alors que G.G. H. Toussaint échoue dans sa tentative de vaccination contre le charbon, Pasteur tente d'appliquer à cette maladie les principes découverts à propos du choléra des poules. Il y parvient en atténuant la virulence des bactéries dites par vieillissement à 42 degrés Celsius, température à laquelle le germe ne sporule pas. Le succès de la vaccination contre le charbon est assuré par l'expérience de Pouilly-le-Fort en juin 1882. C'est la gloire. Émile Roux et Charles-Édouard Chamberlain, partagent les honneurs. Malgré des oppositions de dernière heure, Pasteur sera désormais écouté. Au congrès de Londres en août, il est célébré et il est séduit par sa logique, son enthousiasme et son honnêteté. Le 8 décembre 1881, il est élu à l'Académie française. Il est reçu par Ernest Renan le 27 avril 1882. Au congrès d'hygiène de Genève, il est honoré malgré de vives critiques des Allemands à propos des virus atténués et de la pathogénie du charbon. Sa pension est augmentée auprès du... après le rapport de Paul Berthe qui résume l'œuvre de Pasteur en trois points. Chaque fermentation est le produit du développement d'un microbe spécial. Chaque maladie infectieuse est produite par le développement dans l'organisme d'un microbe et le microbe d'une maladie infectieuse cultivée dans certaines conditions est atténué. Le virus, de virus, il devient vaccin. En 1884, Pasteur se tourne vers la rage. Il tente d'inoculer la maladie au lapin en injectant salive et sang de chiens enragés. Puis il injecte des fragments cérébraux au lapin. Enfin, il découvre l'inoculation intracérébrale, qui donne constamment une rage typique. Il parvient à atténuer la virulence par vieillissement et séchage des moelles épinières des lapins inoculés. À Villeneuve-l'Étang, il entreprend deux expériences. La première consiste à rendre les chiens réfractaires par des inoculations préventives et la seconde à empêcher la rage d'éclater chez des chiens inoculés. Le 6 juillet 1885, Joseph Meister, un enfant de 9 ans, mordu deux jours plus tôt, est amené à Pasteur. Après de nombreuses hésitations, on commence le traitement par des moelles de plus en plus virulentes. En août, l'enfant est considéré comme sauvé. Quelques mois plus tard, Jean-Baptiste Jupil, gravement mordu, traité au sixième jour, est également sauvé par le traitement. Bientôt, des blessés affluent à Paris. La prophylaxie de la rage est efficace après morsure. L'Académie des sciences adopte le projet de la fondation d'un institut Pasteur. Une souscription nationale et internationale est ouverte en 1886. Jacques-Joseph Granchet, Émile Roux, André Chantemesse poursuivent le traitement des maladies. Mais Pasteur, souffrant, doit partir pour le midi se reposer avec sa famille. À son retour à Paris, un nouvel accident neurologique le contraint à diminuer ses activités. L'Institut Pasteur est inauguré le 14 novembre 1888 et le 27 décembre 1892 à la Sorbonne. Les 70 ans de Pasteur sont célébrés avec éclat. Grâce aux travaux des élèves de Pasteur, les germes de la diphtérie, de la peste, sont découverts et le rôle des toxines est mis en évidence. Roux met au point la sérothérapie antiépidémique qu'il applique le 1er février 1894. Le 1er novembre 1894, Pasteur tombe malade. Il participe encore aux activités de ses collaborateurs, mais il meurt le 28 septembre 1895. Finalement, peu importe que le vaccin contre la rage, préparé aujourd'hui à l'Institut Pasteur par manipulation génétique, n'ait plus grand-chose à voir avec les préparations de virus atténués prélevés par Pasteur sur les moelles épinières de lapins séchés à l'air. Peu importe que la théorie pasteurienne de l'oligo, élément indispensable au développement d'un germe pathogène, soit aujourd'hui abandonnée. Seul compte l'élan formidable que Pasteur sut donner à la lutte contre les maladies contagieuses. Et cela, contre l'avis de nombreux médecins ou vétérinaires, et même, s'agissant de la rage, contre l'avis de certains de ses élèves. Sa théorie des germes, sa confiance inébranlable dans la possibilité d'atténuer la virulence des microbes pour conférer aux individus sains, par la vaccination, une immunité artificielle contre les germes pathogènes, font de Pasteur un bienfaiteur de l'humanité et l'un des plus grands biologistes de tous les temps. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers le temps. C'était Erwan, capitaine de bord de l'Odysseus. Comme toujours, vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur radioactif.com ou sur la page Facebook de l'émission pour peu que je pense à la mettre à jour. Au revoir.
I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear, for the whole round world to hear. In my heart, remove all the bars that still keep us apart. I wish you could know what it means to be me. Then you'd see and you'd agree that every man should be free. I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars that still keep us apart. I said I wish you could know, I wish you could feel what it means to be me.